chanceux.
Radio X
supporte ses partenaires.
Que vous soyez de retour à l'école ou au boulot, ou que vous planifiez vos activités de plein air automnales, SMPR Tactique Plein Air est le choix numéro un des consommateurs avisés. Visitez-nous en magasin au 25 Marie de l'Incarnation à Québec ou en ligne au smprtactical.com. Cet automne, ta carrière t'attend au Collège O'Sullivan. Intègre nos programmes en informatique, administration, assurance et plus. Évolue dans un environnement bilingue au cœur du centre-ville. On a une place pour toi. O'Sullivan-Québec.qc.ca. La Fondation des maladies de l'œil vous invite à participer à son nouveau défi sportif interactif de marche, course et vélo du 1er au 30 septembre prochain. Ensemble, marchons, courons et roulons pour la vision. Pour plus de détails, visitez le site web de la Fondation des maladies de l'œil. Pour clôturer votre terrain ou sécuriser votre piscine, la référence à Québec, c'est Clôture Terrien. 15 ans d'expérience et des milliers de clients satisfaits. L'efficacité et le professionnalisme au meilleur prix. 418-473-2783, clôtureterrien.com.
Choix.
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 98-1.
À Québec.
C'est Radio X.
Choix. Radio X.
Faites-vous.
Faites-vous.
Votre propre opinion.
She said, no, let me go, let me go.
He was a wicked, wicked person.
How he could be that cruel.
She was dead, dead.
Suspect. Suspect. X. Avec Christian Page, Camille et le criminologue Dan Carosella.
Radio X.
Bienvenue dans la première d'un tout nouveau rendez-vous radiophonique sur les ondes de Choix 98.1 Radio X, la première de Suspect X avec le cerveau de l'affaire, M. Christian Page. Bonsoir, Christian.
Bonsoir.
Je suis tellement contente qu'on ait enfin concrétisé ce projet-là. On en parlait depuis des mois. On s'est vu au mois d'avril dernier quand tu étais présent pour le Salon du Livre. Et ça a été une idée embryonnaire que les patrons ont accepté de nous offrir et d'intégrer autour de la table aussi quelqu'un que les auditeurs connaissent déjà. S'ils sont fidèles au poste pour le Spacecast, on apporte une expertise criminologue aussi dans l'émission. Monsieur Dan Carosella, Daniel Carosella, criminologue, qui est avec nous également.
Allô! Ah oui, moi c'est je vais avoir des allôs, des bonsoirs. De différentes façons, je pense que les auditeurs du Spacecast me connaissent un petit peu là-dessus.
Effectivement, on s'installe pour une première. Christian, fais juste nous expliquer premièrement, coup de génie de ta part d'appeler ça Suspect X. J'aurais pas pensé mieux que ça. Comment t'es venu l'idée d'apporter ça justement à la grille de Radio X?
Ben, il faut savoir que depuis quelques années maintenant, disons 3 ou 4 ans, on voit que l'univers du balado est en pleine croissance au Québec et partout ailleurs. Et parmi les balados qui sont très populaires, on a les balados de ce qu'on appelle le true crime. Oui. Ça fonctionne bien, les gens aiment beaucoup cette thématique et on échange autour du sujet. Bon, évidemment, comme c'est des balados, on comprend bien que la plupart de ces présentations sont des présentations amateurs. La qualité de l'information est parfois là à discuter, mais néanmoins, les gens restent passionnés par ces sujets-là. Et tu mentionnes, lorsque ce printemps, je suis allé à Québec pour le Salon du Livre, je présentais notamment deux ouvrages qui ont été publiés à peu près simultanément. Un premier qui était mon livre sur les enfants assassins, et un deuxième aussi qui était une encyclopédie du crime qui couvrait l'ensemble de, en fait, autant les sphères d'activités criminelles. On parle bien sûr du monde interlope, on parle des cartels de la drogue, mais on parle des kidnappings, des meurtres et bien sûr des tueurs en série. Et ça a connu un énorme succès. Moi, au kiosque, au Salon du Livre, là, les gens me parlaient de ça, ils étaient friands de ce sujet-là. Et déjà que nous, dans l'émission de Radio X-Files, il nous était arrivé à quelques reprises de se pencher sur des tueurs et on voyait qu'il y avait un grand intérêt de la part du public. Et comme je savais que Daniel intervenait également dans ton émission du Spacecast, qui lui est un professionnel justement en criminologie, je me suis dit pourquoi ne pas mettre tous nos efforts ensemble et de présenter toi comme animatrice, moi comme journaliste, lui comme criminologue, pourquoi ne pas mettre ces efforts-là ensemble pour présenter une série radiophonique sur le crime. Le crime, quand je parle de crime, c'est vraiment très large. On va aborder des kidnappings, des crimes insolubles ou qui sont demeurés non, sans solution. Les tueurs en série, on va revisiter bien sûr des tueurs tueurs en série célèbres. On va se pencher également sur des tueurs québécois, des tueurs également internationaux qui sont peu connus, parce qu'on a l'impression, quand on regarde les divers médias d'information, on a souvent l'impression que l'univers des tueurs en série en particulier se résume à 4 ou 5 assassins. Hein? C'est toujours BTK, Jeffrey Dahmer,
oui.
Le fils de Sam, alors que pourtant, les encyclopédies du crime regorgent de tueurs en série qui sont à peu près inconnus du public. Donc, on va visiter, bien sûr, des crimes célèbres. On va présenter au public des tueurs qui sont beaucoup moins connus, mais qui sont tout aussi monstrueux. Et on va également aborder d'autres aspects. On va parler des cartels de la drogue, les crimes économiques, les kidnappings. Donc, on va essayer d'aller tout azimut. Et j'espère que les gens vont apprécier. On va bien sûr se garder une fois par mois la possibilité de parler de crimes occultes qui demeurent mon dada.
Bien sûr.
Déjà, je me permets d'annoncer pour le 16 octobre prochain la sortie du livre Tueurs de l'occulte, tome 2. Hein, j'avais déjà publié en 2017 ou 2018, là, quelque chose comme ça, le tome 1, qui avait connu un énorme succès. Et donc, le 16 octobre sortira le tome 2. Pourquoi le 16 octobre? Ben, pour les amateurs de crimes, le 16 octobre, c'est la date à laquelle George Losk a reçu la lettre de Jack l'Éventreur qui contenait la moitié du rein de Catherine Eddowes. Donc, quand on m'a parlé d'une date de sortie, j'ai dit pourquoi pas celle-là. Donc ça va sortir, ça va être en librairie dès cet automne. Évidemment, c'est essentiellement sur des crimes à caractère occulte. Qu'est-ce que j'entends par crime occulte? Ben, ce sont des crimes qui sont motivés par des croyances qui relèvent un peu du surnaturel, hein, le vampirisme, le satanisme, ce genre de trucs-là. Mais si on va bien sûr parler dans cette émission Suspect X, on va parler de crimes occultes, mais aussi de plein d'autres crimes. Et pourquoi Suspect X? Ben, évidemment, comme la lettre d'appellation de la station, c'est Radio X. Et comme dans l'univers policier, lorsqu'on est à la recherche d'un suspect qui n'est pas encore identifié, lorsque notamment on travaille sur des crimes de tueurs en série en particulier, les policiers ont tendance à surnommer le suspect potentiel le suspect X. Donc, lorsque les profilers du FBI vont donner un aperçu de qui est peut-être l'assassin, on fait qu'un portrait robot, on l'appelle toujours le suspect X. Donc, on dit aux autorités locales, voici votre suspect X est un homme de 25 à 35 ans, il fait ceci, il fait cela, il doit avoir un travail, il doit avoir une voiture pour commettre ses crimes. Donc, c'est toujours l'expression qu'on utilise, le suspect X. Et comme ça allait un peu de soi, la station s'appelant Radio X, j'ai décidé d'appeler ça Suspect X et je pense que tout le monde a apprécié cette idée.
Numéro 1, et ça va être un magnifique terrain de jeu pour la première saison. Et comme tu l'as mentionné, on aura l'occasion aussi de découvrir certains criminels dont on n'entend jamais parler. Et pour moi, c'est une découverte ce soir pour le premier Suspect X, parler pour la thématique de la soirée du docteur Marcel Pétiot, mieux connu sous le nom de Marcel André Henri Félix Pétiot, un médecin de profession qui a fait aussi un passage en politique dans ses plus jeunes années, qui est né à la fin du 19e siècle à Auxerre en France. Un jeune homme qu'on a décrit rapidement là, dès l'âge de 5 ans comme un enfant qui possédait une certaine douance plus avancée, capable de lire dès l'âge de 5 ans comme un enfant de 10 ans, donc un enfant qu'on dit surdoué. Et dans les contextes dont on va parler pour les crimes, on va se transposer plutôt dans les années 40, au début des années 40, en pleine occupation de l'Allemagne, en fait de l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui, de ce que je comprends dans les prochaines minutes, messieurs, va être un excellent alibi, une excellente cape d'invisibilité pour un homme qui, à la base, avait une mission noble de soigner les plus vulnérables, les pauvres de la société. Mais de ce qu'on comprend, Christian, ces gens-là ne sortaient jamais de son cabinet.
Voilà, tu l'as bien présenté, hein, et l'élément qu'il ne faut jamais oublier ici, on est durant l'occupation de la France. L'occupation allemande de la France a commencé en 1940, hein, ça a été un combat assez court entre la France et l'Allemagne, et dès 1940, un amnistie a été signé et l'Allemagne va occuper la France. À ce moment-là, on imagine que dans les rues et principalement dans les grandes capitales comme Paris, il y a un couvre-feu et la Gestapo est partout.
Oui.
Et peu à peu, évidemment, avec les plans qui sont mis en place par le parti nazi, notamment l'élimination de la population juive, ben évidemment, les Juifs de Paris sont d'abord obligés de porter l'étoile jaune, ouais. L'étoile qui les identifie comme étant des Juifs. Et éventuellement, dans les années qui vont suivre, 41-42, ces Juifs identifiés seront déportés, vont être embarqués dans des camions à bestiaux, amenés vers des stations de train qui vont les amener vers les grands camps de concentration, les camps d'élimination d'Auschwitz, Birkenau, Buchenwald et compagnie. Donc, c'est dans cet univers, il faut vraiment ce Marcel Petiot dont tu as parlé. Ce Marcel Petiot, c'est un homme qui va s'alimenter de cet univers. Hein. Quand on dit l'occasion fait le larron, c'est exactement ce qui va se passer avec ce Marcel Petiot. Comme tu l'as mentionné, il est né à Auxerre, c'est une petite commune au sud-est de Paris, en France. Il est né le 17 janvier 1897. Comme tu l'as mentionné, c'est un individu qui rapidement va se distinguer parmi les élèves à l'école comme étant un jeune qui est relativement doué. On ne connaît pas grand-chose de sa petite enfance, hein, contrairement à beaucoup de tueurs en série où on sait, par exemple, qu'il y a des abus, des éléments qui vont conduire.
Violents.
Oui, voilà. Et souvent, on retrouve ça, ce passé-là chez les tueurs en série, on trouve pas ça chez Marcel Petiot. On sait que ses parents sont de classe moyenne, mais on ne connaît pas d'abus, quel qu'il soit, à l'égard de l'enfant. Bon, peut-être que c'est secret, peut-être qu'on n'en a jamais parlé, mais même durant son procès, Petiot n'évoquera pas ça. À l'école, ben, comme tu l'as mentionné, c'est un enfant qui se montre très doué, mais en même temps, c'est un enfant très perturbateur. Il est contre l'autorité, il commet des petits larcins, hein, volent des choses à l'école. D'ailleurs, on va le diagnostiquer comme souffrant de kleptomanie, hein. Il est incapable de résister à ses vols. Et, il est aussi un petit peu coquin parce qu'il va passer déjà au primaire, il va passer à ses collègues de classe des photographies que l'on dit scabreuses.
Ah oui!
Okay. Oui, c'est des photos scabreuses de cette fin du 19e siècle. Donc, il diffuse ces éléments-là. Et on le surprend également. Il y a des gens qui vont témoigner que dans sa petite enfance, il aurait été surpris à maltraiter des animaux en solitaire. Alors là, on a déjà un premier trait qu'on retrouve chez beaucoup de tueurs en série, cette idée de maltraiter des animaux.
J'ai aussi vu l'information, je ne sais pas à quel moment Christian, par contre, s'est apparu dans sa vie, mais il y aurait à l'époque quelque chose qu'on n'aurait pas diagnostiqué nécessairement, mais il aurait eu des traits de syndrome de bipolarité carrément, là.
Oui, ça va apparaître plus tardivement. Donc, on a déjà ce jeune qui est un peu troublé. C'est une enfance chaotique. Hein, il va changer souvent d'école justement à cause de ses larcins, parce qu'il se fait surprendre, comme je l'ai mentionné, à distribuer des photographies coquines. Bon, on s'adresse à ses parents, mais les comportements de Marcel restent un peu chaotiques. Il change d'école. Et puis, éventuellement, parce qu'il est très intelligent, il va avoir une formation académique. Il va même sauter une année. Et il va s'inscrire à l'école de médecine. Il s'inscrit d'abord au baccalauréat. C'est un enfant très, en même temps, comme je ne peux qu'insister sur le fait qu'il est très perturbé, mais c'est également un individu qui est très doué. Donc, il s'inscrit au baccalauréat en médecine, mais il ne le terminera pas immédiatement en tout cas. À ce moment-là, on est à l'époque de la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, oui. À ne pas confondre avec celle de 39-45, qui va devenir le terrain de jeu un peu de Marcel Petiot. Mais lors de la Première Guerre mondiale, donc qu'on va appeler la guerre des tranchées, il s'engage dans la milice et il va servir sur le front. Il va d'ailleurs servir avec beaucoup de courage. Hein. Il va être ses supérieurs vont remarquer notamment son zèle, ils vont également remarquer son courage. Donc, il le fait avec distinction. Mais, quelque part, aux alentours de 1917, là, un peu avant la fin de la Première Guerre mondiale, il va être victime, en fait, la tranchée où il se trouve va être bombardé par des obus. Il va développer, semble-t-il, un syndrome que l'on appelle aujourd'hui le syndrome post-traumatique. Donc, il est ramené, hein, il est démobilisé et envoyé dans des hôpitaux. Il va faire plusieurs hôpitaux militaires. Ça reste un peu controversé. Hein. A-t-il vraiment ce syndrome-là ou cherche-t-il à trouver le moyen de se faire payer une pension?
Oui, une porte de sortie.
Parce que Marcel... Oui, parce que Marcel Petiot, c'est un escroc dans l'âme. Toute sa vie va être guidée par l'idée de pouvoir faire de l'argent. Donc, il est démobilisé, il est envoyé dans des hôpitaux, des hôpitaux militaires. Il apprend que si éventuellement il serait déclaré invalide, il pourrait recevoir une rente militaire à vie. Donc, évidemment, il va jouer sur ces éléments, mais ça ne fonctionnera pas. Fait qu'éventuellement, il va être démobilisé. Et quand il est démobilisé complètement, ben il faut savoir que son carnet médical mentionne plusieurs troubles de comportement. J'ai ici une copie, c'est marqué neurasthénie, dégénérescence mentale, obsession et phobie, déséquilibre, tendance aux idées morbides et suicidaires, délire paranoïaque, démence précoce, débile mental.
Donc, et quelques années plus tard, on donne une mention très bien à cet homme-là pour soigner d'autres personnes.
Tu as tout à fait raison. Donc, il est démobilisé, mais il va poursuivre ses études en médecine. Il s'inscrit à l'Université de Paris en médecine et il va terminer sa formation avec une mention très bien. Donc, on est quand même étonné de voir qu'un individu aussi troublé va recevoir de telles mentions et on va lui donner le droit d'exercer auprès d'une population, qui est bien sûr vulnérable. Ce sont les malades. Et voilà qu'on met ce Marcel Petiot comme ça sur le terrain, sur le terrain. Tu l'as mentionné un peu plus tôt, outre sa formation médicale, c'est un individu aussi qui a des visées politiques. Donc, on le retrouve à ce moment-là. On est rendu en 1926. Il a ouvert un cabinet à Villeneuve-sur-Yonne. Ça se trouve pour les gens qui connaissent la France, c'est dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il a son cabinet médical. Il exerce et, comme beaucoup de médecins, il jouait de cette aura médicale. Les médecins, t'as Dieu puis t'as les médecins ensuite. Et donc il exerce, il a une clientèle qui lui voue un véritable culte. Il se présente à la mairie et il est élu à la mairie de Villeneuve-sur-Yonne. J'ai vérifié au cours de la préparation de cette émission, j'ai vérifié sur les registres de Villeneuve-sur-Yonne. On voit qu'il y a certaines sources qui disent qu'il a été maire dès 1926, alors que sur le registre, on parle qu'il a été élu en 1927 et il est demeuré en poste jusqu'en 1931. Et quand j'ai parlé avec des gens là-bas, j'ai eu une communication par courriel, on me dit il est possible qu'il ait été élu à la fin. Le suffrage se faisait quatre mois avant la prise de ses fonctions. Donc, il est possible qu'il ait été élu en 1926, mais il a pris charge uniquement en 1927. Bref, sur le site de Yonne, de Villeneuve-sur-Yonne, on dit Marcel Petiot a été maire entre 1927 et 1931. Sa présence à l'hôtel de ville ne se fait pas sans heurts. Des gens ses adversaires politiques vont dénoncer notamment des dépenses excessives, des sommes d'argent qui semblent disparaître, des enveloppes brunes, des investissements qui ne servent finalement que le bénéfice de Marcel Petiot. Bref, finalement, en 1931, il ne se représentera pas pour un nouveau mandat. Et durant cette période, alors qu'il habite à Villeneuve-sur-Yonne, c'est là qu'il va également épouser son épouse, qui va être sa seule épouse, Georgette, et ils vont avoir, de cette union, va naître un garçon, Gerhard, qui va être le seul enfant du couple. Et puis, après l'échec d'une réélection à Villeneuve-sur-Yonne, il quitte. Cette fois, il va s'installer à Paris, où il va ouvrir un cabinet médical sur la rue Comartin. Ce qui est intéressant ici, on n'est pas encore durant cette Deuxième Guerre mondiale. Et lorsqu'il ouvre son cabinet, écoute, il y a toutes sortes de trucs. Petiot est jamais oublié qu'il est un escroc dans l'âme. Alors, pour valoriser ses qualités de médecin, et je pense que c'est pas un très, très bon médecin non plus, mais
non,
pour
valoriser ses qualités. Non, je pense qu'il jouait beaucoup sur de la fraude aujourd'hui, là, tu sais, d'être avant-garde, d'être alternatif dans son approche.
Dans son cabinet médical, il avait installé des microphones. Tant et si bien que des gens se présentaient au cabinet, des clients qu'ils ne connaissaient pas se présentant, on prenait rendez-vous, on arrivait chez le médecin, on est assis dans la salle d'attente, et très souvent, on va confier à nos voisins de salle d'attente, aux autres patients, les mots qui nous préoccupent. Oui, j'ai mal à l'estomac, j'ai des maux de tête depuis quelques semaines. Alors, Petiot entendait tout ce qui se disait dans la salle d'attente.
Ah!
Et quand le patient entrait dans le cabinet de Petiot, Petiot le regardait droit dans les yeux, il disait, vous, monsieur, vous avez des douleurs à l'estomac. Et le type disait, mais il est génial, ce Marcel Petiot. Hein? Un truc qui sera plus tard utilisé par des médiums en salle. Hein? On interroge des gens en salle. Et là, la personne, le médium sur la scène, où on l'a vu également dans l'univers du religieux avec les preachers, hein, qui pointent quelqu'un dans la salle. Puis vous, monsieur, le Seigneur me dit que vous souffrez de maux de tête. Mais en réalité, la personne s'est confiée à l'entrée, à une secrétaire qui, elle, ne fait que retransmettre l'information. Donc, Petiot utilise ce système-là. Et à ce moment-là, écoute, tout le monde en parle de lui comme étant le brave docteur Petiot. À ce moment-là, il commence à voir des choses. C'est le brave docteur Petiot, mais il y a quand même des éléments qui commencent un peu à nuire à sa réputation. D'abord, et on va éventuellement, le collège médical va l'accuser de faire des prescriptions qui sont un peu pour favoriser des toxicomanes. Hein? Des gens vont le voir, ils ont besoin de drogue et de l'héroïne. Petiot va leur faire des prescriptions comme ça pour les accommoder. Hein, éventuellement, il va être surpris par le collège des médecins qui vont éventuellement le condamner. Il va être d'ailleurs condamné à 1 an de prison, hein, pour ce trafic de narcotiques. Il va faire quelques mois, il est libéré. Il va également essayer de détourner de l'électricité dans son cabinet médical. Bon. Il va se faire prendre. Il va être mis à l'amende. Et à ce moment-là, on approche de la période des crimes. Là, je vois que le temps file, donc il faut rapidement passer au crime.
Et lorsqu'on comprend parce qu'il s'est fait pogner une fois, Christian, il s'est dit, là, cette fois-ci, faut pas qu'il y ait de témoins.
Et à ce moment-là, il y a des éléments dans l'entourage de Petiot. C'est-à-dire qu'il y a on le suspecte de peut-être faire des avortements illégaux. C'est pas prouvé. On sait également qu'une personne qui travaillait pour le docteur Petiot, une servante qui apparemment était enceinte, va disparaître. Elle est de corps et âme, donc on la retrouvera pas. Et en même temps, à peu près à cette époque-là, donc on est à la fin des années 30, début des années 40, il y a également des personnes, des cadavres qu'on va retrouver dans le bois de Boulogne. À ce moment-là, on est juste au début de la guerre. Ce sont des gens qui ont été mutilés, défigurés, et on ne sait pas qui ils sont. Les médecins, les légistes diront, ben on a l'impression que ces mutilations ont été faites par quelqu'un qui avait des connaissances chirurgicales. Évidemment, durant le procès Petiot, qui va se tenir en 1946, on va le pointer du doigt, mais on n'arrivera pas à démontrer que Petiot est impliqué là-dedans. Mais on voit que, déjà, c'est un personnage qui est un peu louche, et là arrive cette fameuse occupation de la France par l'Allemagne, et on comprend les Juifs, qui déjà, même si on prétend que les gens n'étaient pas au courant des camps les camps de concentration ou les camps de la mort. Reste que la rumeur le disait, les Juifs qui partaient pour l'Allemagne ou la Pologne, hein, Auschwitz est en Pologne, les gens qui partaient pour ces régions-là ne revenaient jamais. Donc on se disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Des gens, on part, on les amène dans des camps de concentration, ces gens-là ne reviennent pas, soi-disant des camps de travail. Alors là, les gens, la rumeur voulait qu'ils étaient exterminés. Donc on le comprend, les gens veulent quitter la France le plus rapidement possible. Et Petiot, comme il sent toujours, il flaire la bonne affaire.
Un petit peddler.
Il flirte. Ah oui, c'est ça, c'est un bon peddler. Hein. Il flirte avec les gens de la résistance, hein, parce qu'il y a des réseaux de résistance qui s'organisent en France. Il y a des gens de la résistance qui vont le voir. Le docteur Petiot, lui, dans la mesure où on le paye, que l'argent vienne de l'Allemagne ou que l'argent vienne de la France, il n'en a rien à cirer. Alors, il laisse savoir aux gens de la résistance que lui connaît des gens, une espèce de réseau qui permettrait à des gens de fuir la France occupée. Et à travers ce fameux réseau de collaborateurs, de la résistance, le bruit circule, et éventuellement des Juifs, hein, il se fait appeler le docteur Eugène, donc des Juifs vont prendre contact à travers le réseau de la résistance avec le docteur Eugène. Et le docteur Eugène, alias Marcel Petiot, a acheté un petit hôtel au 21 rue Le Sueur. Et au 21 rue Le Sueur, il n'y a strictement rien. Il y a cet hôtel, un petit hôtel particulier à 4 étages. Il ne fait qu'aménager un bureau au rez-de-chaussée.
Appelons-le cabinet de l'horreur, ça rime.
Oui, oui, hey, c'est assez monstrueux. Hein? Donc, il a fait aménager, il y a un garde-meuble dans le bâtiment, c'est tout ce qu'il y a là. Il s'est fait aménager un bureau. Et là, pour les gens qui nous écoutent un peu, ils visualisent un peu cette histoire de bureau. C'est un bureau dans qui est un peu triangulaire, et dans une encoignure, il y a une porte qui s'ouvre, qui donne sur un petit réduit, une petite réserve. Et dans cette réserve, Petiot, la porte ne s'ouvre que de l'extérieur, donc une fois à l'intérieur, on ne peut pas en sortir. vampire, et il a fait dissimuler derrière des montures en bois, il a fait dissimuler des becs de gaz. Et là, donc, les gens, les Juifs, qui veulent quitter l'Europe, hein, qui ont entendu parler du brave docteur Eugène, et que le docteur Eugène peut les faire sortir de la France occupée vers notamment l'Argentine, vont prendre contact avec Petiot. Et Petiot leur dit, ben là, écoutez, moi, je peux vous faire passer, mais il y a des règles à suivre. D'abord, vous n'en parlez pas à personne. Ça doit rester secret, parce que si, si la Gestapo apprend ça, on va se faire arrêter. Donc, il faut que ça reste secret. Vous, il leur donne rendez-vous dans son petit hôtel particulier du 21 rue Le Sueur. Il lui dit, vous allez venir ici, apporter le moins de bagages possible, des vêtements, mais vraiment le strict minimum. Apportez avec vous tous vos
bijoux,
biens. bijoux, argent, tout. Et la façon pour pas que ça paraisse trop, dissimulez-le dans vos vêtements à travers des doublures, etc. Dissimulez vos bijoux, votre argent-là pour pas qu'on puisse le voir. Et là, vous venez à mon cabinet. Il leur fixe rendez-vous, ces gens-là arrivent. Petiot leur fait à croire que pour passer vers l'Argentine, ils doivent se faire vacciner parce que c'est une condition sine qua non pour traverser de l'autre côté. Ces gens-là se font vacciner et sans le savoir, bien sûr, Petiot leur injecte un cocktail empoisonné. Et une fois que ces gens-là ont eu ce cocktail dans les veines, le temps que le poison fasse effet, Petiot se rassoit à son bureau, leur fait signer des cartes postales en disant « Je vais remettre ça à votre épouse ou à votre famille dans une semaine ou dans deux semaines. » Et évidemment, ces gens-là ne font que signer. Petiot s'occupe d'écrire l'important, le message en disant « Je suis arrivé à Buenos Aires, tout va pour le mieux, bravo chérie, je t'aime, je te retrouve après la guerre. » Bon, tu vois un peu le message. Et pendant qu'il fait ça, il a installé sous son bureau un bouton qui lui permet d'activer la sonnette extérieure. Alors, pendant qu'il parle avec son futur transfuge, il appuie sur le bouton, la sonnette se fait entendre, et là, Petiot joue la comédie en disant, mais mon Dieu, qui sonne à cette heure? Est-ce mon contact ou est-ce la Gestapo? Alors, il dit à l'individu, vite, allez vous cacher dans petit réduit, je viens vous chercher dans quelques minutes. Et là, une fois que la personne est dans le réduit, ben, tu comprends qu'il est emprisonné. Petiot, à travers des judas, c'est vraiment monstrueux, il a installé des judas pour pouvoir suivre l'agonie de ces gens dans leur réduit, il les regarde mourir à petit feu, empoisonnés, et il s'assure pour être bien pour que leur décès soit définitif, il ouvre même les gaz pour ajouter un gaz toxique à leur empoisonnement par injection. Et une fois que ces gens-là sont morts, Petiot évidemment s'occupe de récupérer leurs vêtements, défait pour récupérer bijoux et argent, et ensuite, banalement, il descend les corps au sous-sol, il les découpe en morceaux, il a fait installer une grosse chaudière et il se débarrasse des corps dans la chaudière. Mais le problème au départ, et c'est le même problème auquel vont être confrontés notamment les Allemands de l'Allemagne nazie, c'est pas tant de tuer des individus qui est difficile, c'est de se débarrasser des corps.
Ouais.
Et là, Petiot est confronté à ça, se débarrasser des corps, c'est assez difficile. Donc, il a fait installer une très grosse chaudière, comme je l'ai mentionné, avec du charbon, où il découpe les corps et jette les morceaux des corps. Mais comme c'est insuffisant, il fait également creuser une espèce de fosse dans laquelle il la fait remplir de chaux et il jette les morceaux de cadavres dans la chaux le temps que l'effet corrosif de la chaux fasse leur travail et dissoude les corps.
C'est épouvantable de rappeler aux auditeurs qu'ils regardent ça à temps perdu.
Oui.
C'est le surnom que la presse va lui donner de Docteur Satan prend tout son sens.
Oui, absolument. Et éventuellement, Petiot va se faire prendre par un aspect assez étonnant. À un moment donné, on est en 1944, on est en mars 1944, l'occupation allemande a pris fin. Hein, l'arrivée des Alliés a repoussé les Allemands de l'autre côté de la frontière. Donc, la France est libérée. Et à ce moment-là, il va se produire un événement. Des sans-abri vont pénétrer dans le 21 rue Le Sueur, que Petiot n'occupe hein, qu'à l'occasion lorsqu'il fait ses fameux contrats de transfuge. Donc, des sans-abri vont pénétrer à l'intérieur de l'hôtel, croyant qu'il est abandonné, et sans même se rendre compte qu'il y a des morceaux de cadavres qui traînent dans une pièce, ils vont allumer la chaudière qui est un peu bloquée et qui est surchargée en charbon. Ils vont se réfugier au rez-de-chaussée, mais la fumée en des corps qui commencent à brûler dans la chaudière vont dégager une fumée noire et pestilentielle. résidentielle qui va alerter les voisins. Et là, on va appeler la brigade des pompiers qui va arriver sur place, vont découvrir, en entrant à l'intérieur, ils vont trouver nos deux sans-abri qui sont morts asphyxiés, mais en descendant au sous-sol, ils vont trouver la fosse avec la chaux, les morceaux de cadavres et les autres morceaux de cadavres qui attendent d'être brûlés dans la fameuse chaudière. Et crois-le ou non, il y a un événement tout à fait extraordinaire qui arrive à ce moment-là. Petiot arrive sur l'entrefait. Il arrive en vélo. Et là, il voit que les pompiers et la police est là. Il entre à l'intérieur, il se fait passer pour le frère du propriétaire. Et là, quand on lui dit « Monsieur, c'est épouvantable, on a trouvé des corps au sous-sol », Petiot leur dit « Ah, c'est vraiment terrible, mais il ne faut pas ébruiter la chose. Les gens qu'on a exécutés au sous-sol, ce sont des collabos avec les nazis. »
Ah, voilà.
Il y a une espèce d'aspect tout à fait là, nationaliste derrière ça. Faut pas, on s'est débarrassé des collabos.
Et il y a le beau jeu là-dedans, c'est ça le pire. Il y avait tout le contexte historique de son côté, tu sais.
Et là, on le laisse partir. Et là, Petiot va éventuellement changer d'identité. Il va prendre le nom du docteur Valérie. Il va même se faire engager dans une espèce de milice parisienne pour traquer les gens qui étaient les collaborateurs des nazis qui auraient travaillé contre la résistance. Et là, c'est sous ce nom du docteur Valérie qu'éventuellement, il va lire dans le journal un article. Parce que là, entre-temps, les mois ont passé. On a découvert que les cadavres chez Petiot n'avaient rien à voir avec des collaborateurs nazis. C'est des pauvres juifs qui avaient tout risqué, tout misé pour fuir la France occupée. Et Petiot, évidemment, les a massacrés. Et là, il lit un article dans le journal qui dit « Docteur Petiot, collaborateur des nazis ». Et ça, ça le choque. Il se dit « Non, 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 je suis peut-être un monstre, mais j'ai quand même pas collaboré avec les nazis ». Et là, il va écrire une lettre au journal, le journal qui s'appelle La Résistance, d'ailleurs. Il écrit un article au journal, et là, la France entière recherche le docteur Petiot. Alors, il écrit une lettre qu'il va signer du nom du docteur Petiot. Et il dit « Non, non, vous, c'est des accusations mensongère. Bon, d'accord, je reconnais avoir tué ces gens, mais je n'ai jamais collaboré avec les nazis. »
Et Dan pourra confirmer, hein, un narcissique comme ça, ça ne veut jamais rester silencieux, puis ça veut le bon mérite.
Et là, il signe sa lettre, Docteur Petiot. Mais éventuellement, la lettre va être publiée dans le journal. Des gens vont reconnaître éventuellement l'écriture de Petiot. Ils vont l'associer à celle de Valérie. Et Petiot va être arrêté. Et il va y avoir son procès. Et durant son procès, parce que je veux passer la parole à Daniel, mais
oui.
Durant son procès, Petiot, on l'accuse d'avoir assassiné. C'est un spectacle, hein. Petiot est au-dessus de tout ça. Mais à des moments donnés, il bat, il fait semblant de s'endormir. Durant son procès, on l'accuse d'une vingtaine d'assassinats. Il clame haut et fort, non, 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 j'en ai tué au moins 63. Donc, il réclame le nombre de gens qu'il a envoyés dans sa terrible fournaise.
Mais on a réussi à identifier, je crois, c'est 27 corps.
Voilà, donc 27, d'ailleurs, c'est pour ça que le procès a lieu. Hein. On l'accuse de ces fameux procès. Et éventuellement, donc, Petiot est reconnu coupable par la cour d'assises de Paris. Et au printemps de 1946, il est condamné et exécuté par la guillotine, comme c'était la façon de faire à cette époque. Et ainsi meurt le docteur Satan, dont on ne connaîtra jamais le nombre de victimes exactes. Et ce qui est intéressant dans le cas de Petiot, c'est quand il va emporter avec lui aussi un terrible secret, le secret des sommes d'argent qu'il a dévalisées. Hein, on ne sait pas combien d'argent, mais on parle aujourd'hui en argent sonnant d'aujourd'hui de sommes d'argent qui pourrait atteindre les 7 millions de dollars. Si on regarde en anciens francs français et en euros, ça pourrait équivaloir à une somme de 7 millions de dollars qu'on n'a jamais retrouvée.
C'est énorme. Plusieurs disent que le livre qu'il a écrit pendant qu'il était en prison, Le hasard vaincu, c'est un peu une espèce de code Da Vinci pour essayer de déchiffrer peut-être, avoir des indices sur où trouver ce magot-là. Mais c'est sans succès depuis la fin.
Non, exact. On n'a jamais retrouvé de ces sommes d'argent. Et... écoute, je t'ai dit 7 millions de dollars, c'est pas 7 millions, c'est 75 millions.
Oh, c'est un automax. Hein?
j'ai le chiffre. C'est estimé en 1946 à 200 millions de francs, l'équivalent de 50 millions d'euros aujourd'hui, donc 75 millions de dollars canadiens dont on n'a jamais retrouvé trace. Et avec lui, bien sûr, le docteur Petiot a emporté son terrible secret après son exécution, qui, faut-il le rappeler, a lieu le 26 mai 1946 et qui fait de lui l'un des pires tueurs en série de l'histoire de la France.
Dont on a peu entendu parler.
Voilà. Yep. À toi, mon Daniel, t'en penses quoi d'un joyeux personnage comme celui-là?
Je vous le dis, après, quoi de mieux que d'enregistrer après une journée de travail et de se retrouver devant, bon Dieu, un cas aussi... en fait, ça, c'est Disney-esque, ce cas-là, oui. Tu sais. Ça nous met vraiment dans un bon mood, je dirais. C'est sûr que le cas de Potio est intéressant, mais ce qu'il faut comprendre dans cette situation-là, est, en fait, dans une perspective historique, la criminologie demeure une science qui est relativement jeune. En fait, la criminologie comme telle, elle date d'il y a plusieurs siècles, mais il y a comme eu une espèce de, je vais dire, temps mort de plusieurs siècles suivant. En fait, ça a commencé en Italie avec notamment, puis j'en ai parlé dans le Spacecast, les théories biologiques de Lombroso, mais suite à ça, on ne s'est pas tant intéressé que ça à la criminologie. Puis pour vous dire, au Québec, à Montréal, la criminologie est née dans les années 60, donc c'est pas très vieux. Et la psychiatrie aussi a beaucoup évolué, je vous dirais, dans les dernières décennies, ce qui fait en sorte que Petitot, disons, a sévi à une époque où c'était pas une belle époque pour être diagnostiqué. Christian, tu disais tantôt, il y a eu un paquet de diagnostics, puis sincèrement, j'ai regardé tout ça, puis même je t'entendais tantôt, et la première réaction que j'ai eue, c'est « mais ça n'a pas de maudit bon sens ».
c'est une bonne réaction.
Oui, ben, c'est une bonne réaction. Je pense qu'on a tous eu la même réaction.
c'est parce que tu regardes ça et tu fais comme, mais calvaire, ça n'a aucun sens, surtout pas avec les connaissances qu'on a aujourd'hui. Mais tu sais, il faut comprendre qu'à l'époque, là, la psychiatrie n'était pas nécessairement aussi évoluée qu'aujourd'hui, puis la criminologie encore moins. Ce qui m'amène à dire, en fait, quand on s'intéresse à des tueurs comme ça ou des criminels, point, on regarde tout le temps la source. Donc, qu'est-ce qui a poussé la personne à commettre ce genre de crime-là? Et Christelle, tu l'as très bien dit, en fait, c'est pas compliqué, c'est la pas du gain. Donc, il y a quatre sources, finalement, quand on regarde le parcours criminel de quelqu'un. Et dans ce cas-là, pour lui, c'était vraiment la pas du gain. Et il y avait surtout la peur de se faire attrapé. Mais au-delà de ça, avec les 50 millions de diagnostics qu'il y a eu dans sa vie, je vous dirais que je ne pense pas que ce gars-là souffrait d'une maladie mentale pure. Donc, en fait, rapidement, au niveau du DSM-5, il y a 5 axes qu'on regarde là au niveau de la maladie mentale. Et le premier axe, c'est la maladie mentale comme telle. Et je pense pas, je suis même pas sûr que ce gars-là, en fonction de ce que j'ai lu, en fonction de ce que je sais, et surtout en fonction de ton récit, Christian, je ne pense pas qu'il souffrait même de bipolarité. Ce que j'ai l'impression avec cette personne-là, c'est qu'on était face à un individu qui, s'il avait été diagnostiqué comme il faut à l'époque, était plus dans l'ordre de 3 troubles de la personnalité. Dans le fond, vous l'avez très bien identifié tantôt, je pense qu'il était légèrement narcissique.
Oui.
À peine. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un narcissique, premièrement, au niveau professionnel, je vous le dis, en ce moment, le diagnostic est super en mode, c'est les TPL, les troubles de personnalité limite. Mais selon moi, le trouble de personnalité le plus difficile avec lequel traiter, c'est le narcissisme. Pourquoi? Parce que ces gens-là se pensent au-dessus de tout le monde. Donc, pour eux autres, ils sont tellement bons, tellement supérieurs. Et dans le cas de Petit Ours, on lui a un peu montré ça, on lui a un peu inculqué ça. Tu sais, tantôt, tu parlais de sa douance.
Oui.
Ben, on a tout le temps entretenu ça chez lui. Et même quand, tu sais, il a commis plusieurs crimes, on voit qu'il y a eu une gradation aussi dans sa vie au niveau de la criminalité. Mais au-delà de ça, ce gars-là a quand même réussi des études de médecine. Donc, c'est devenu vraiment entretenir, nourrir son côté narcissique. Et Dieu seul sait qu'il s'est flatté l'ego tout au long de sa vie. L'autre trouble de personnalité que j'ai vu chez lui, c'est le trouble de personnalité antisociale. Dans le fond, ce qui catégorise ce trouble de personnalité-là, c'est le fait que, oui, il y a des règlements, il y a des règles, il y a des lois, mais c'est pas pour moi. Je m'en fous un peu et j'ai aucune difficulté, j'ai aucune pudeur à les transgresser. C'est pour ça que lui, dans son appât du gain, il y avait absolument aucune difficulté à détrousser n'importe qui. Christian, tu l'as dit tantôt que ça venait des Français ou des Allemands. Il n'y en avait rien à cirer. Et ça pouvait être des pauvres, des riches. On s'en fout.
Et c'est vrai qu'on en connaît peu de son histoire aussi, mis à part sa femme qu'il a épousée. Il travaillait seul. Ça avait parlé de quelqu'un aussi qui côtoyait beaucoup de gens.
Fait, je te dirais, quand on regarde ça, on est moins dans le trouble de personnalité antisociale que dans le trouble de personnalité narcissique. Pourquoi? Parce qu'il se voit au-dessus de tout le monde. Généralement, c'est des gens qui ont de la difficulté à entretenir des relations interpersonnelles. Pourquoi? Ben là, je vais le dire crûment de même, mais généralement, ils font chier tout le monde, parce que, justement, ils se pensent tellement supérieurs à tout le monde. Donc, ces gens-là méprisent même les gens autour d'eux.
Donc, quelque part, les gens qui sont autour de lui, avec lesquels il entretient des relations, ce sont des gens qui lui sont utiles.
Ouais.
Lorsqu'il discute, par exemple, avec les gens de la résistance, c'est parce qu'il sait que les gens de la résistance vont être en contact avec des gens qui veulent faire passer des Juifs à l'étranger. Donc, il tire un profit de ces relations personnelles.
Absolument. Puis dans le fond, souvent, les personnalités narcissiques instrumentalisent ça. C'est le beau terme, là, si jamais vous voulez impressionner vos proches. Là, on dit instrumentalise les gens. Donc, c'est-à-dire que les gens autour d'eux, c'est des instruments. Ça leur sert uniquement à leur fin. Donc, ils ne voient pas la valeur humaine chez quelqu'un. Et c'est des gens qui sont dépourvus souvent d'empathie. Mais tu sais, Cam, dans le Space Cash, je t'avais dit, y a deux troubles de personnalité qu'on voit chez les psychopathes.
Oui.
Je viens de les nommer. Donc, les psychopathes, c'est des gens qui sont narcissiques et antisociales. Donc, le mix des deux, moi, je regarde son profil à lui et clairement, si la science avait été plus avancée à l'époque, probablement qu'on lui aurait mis l'étiquette de psychopathe. C'était visiblement quelqu'un qui était totalement dépourvu d'empathie. C'était quelqu'un qui instrumentalisait les gens autour de lui. C'est quelqu'un qui n'en avait rien à cirer au niveau des règles. Là, c'est sûr que, tu sais, évidemment, on ne le saura jamais. Puis, je veux dire, je peux pas passer un test HCR-20 pour déterminer si quelqu'un est psychopathe ou non avec quelqu'un qui est décédé. Mais au-delà de ça, je vous ai dit qu'il y avait un troisième trouble de personnalité qui est assez flagrant dans son cas, et c'est le trouble de personnalité histrionique. Ça aussi, c'est un très beau mot à jouer au Scrabble, là, mais en fait...
En gros, c'est quoi? Ben oui.
En gros, c'est quelqu'un qui aime beaucoup ça, je veux dire, s'exposer. C'est quelqu'un de très théâtral. OK? Et Christelle, tu l'as dit, en cours, il a fait semblant de s'endormir, hein?
Il se lançait dans des joutes oratoires à des moments donnés. Il s'en prenait aux juges, aux magistrats. Exactement. Mais vraiment, c'était très théâtral. Hein? C'était comme lui qui était... On avait presque l'impression, à des moments donnés, qu'on assistait un peu au discours d'un prêtre en chair. Là. Tu sais, là, il montait au tribunal et le doigt pointé vers le juge.
À donner la morale.
Il était au-dessus de tout ça. Là. C'était exact. Pas le procès de Petitot, c'était Petitot qui faisait le procès de la société. Là.
Exactement. Et ça, autant ça peut être histrionique parce que tu te donnes en spectacle, autant ça accorde aussi avec le trouble narcissique. C'est-à-dire tout le monde est inférieur à lui, que tu sois médecin, juge, avocat, peu importe qui t'es vraiment inférieur à lui. Et d'ailleurs, le trouble de personnalité histrionique, on le retrouve aussi dans certaines autres de ses déclarations, dont une de mes préférées, c'est-à-dire l'avocat général Pierre Dupin qui, à un moment donné, le matin de son exécution, l'avait réveillé et il avait répondu « Tu me fais chier. » Donc,
plus tard, il lui dit « Ne regardez pas, hein, quand on va me guillotiner, ne regardez pas, parce que je veux que vous gardiez un beau souvenir de moi. Ça sera pas beau, gardez un beau souvenir de moi. »
C'est ça, tu sais. Tu vois l'espèce de théâtre qu'il voulait faire. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si, à l'époque, la science avait été plus évoluée, on lui aurait probablement diagnostiqué des troubles de personnalité. On aurait probablement pu intervenir aussi là-dessus de façon beaucoup plus précoce que d'aller commencer à faire des expertises psychiatriques qui avaient juste aucun sens. Et d'ailleurs, puis je vais terminer là-dessus pour vous dire à quel point je pense que je suis pas trop loin de la traque. Il y a des expertises quand même psychiatriques qui avaient été faites sur lui. Et il y avait notamment le docteur Génil Perrin qui avait dit on s'est mis à trois sur son cas, puis là, évidemment, c'est une figure, et ils ont trouvé aucune maladie mentale. C'est pour ça que je vous dis que selon moi, dans son cas à lui, on était beaucoup plus dans l'ordre des troubles de personnalité.
Depuis, ouais, quel personnage. Et depuis les années 50, le 21 rue Le Sieur est démoli. Donc, toutes les tentatives qu'on a eues d'écrire des livres, de reprendre le personnage dans des bandes dessinées du Dr. Pétiot, bien, ça va rester un mystère. Hein. C'est une de ses dernières déclarations, d'ailleurs. Hein. Je suis un voyageur qui emporte avec lui ses bagages. On n'aura, au final, pas eu de nombre total de victimes, ni, en fait, c'est la disparition et le mystère autour de ce personnage-là et de ce qu'il aura fait et de ce qu'il aura caché en termes de fortune, comme on l'a mentionné.
Ouais. Petite anecdote, hein, tu dis le 21 rue Le Sueur a été détruit, mais il y a un 21 rue Le Sueur. Hein. L'hôtel particulier de Petiot n'y est plus. Le 21 rue Le Sueur est toujours là. Et il y a quelques années, on était à la fin des années 80, j'étais au 21 rue Le Sueur, je prenais des photographies, il y a une vieille dame qui arrive, elle me voit prendre des photos, elle me demande « Vous faites quoi? » Et là, je lui dis « Ben, je suis journaliste, je m'intéresse aux histoires de crimes. » Et là, elle me voit photographier le 21 rue Le Sueur. Et là, je lui dis « C'est à propos du docteur Petiot. » Et elle me dit « Vous savez, le docteur Petiot, je l'ai rencontré, il était très gentil. »
Ah! Ah! Vous avez été très chanceuse, madame.
Oui, exact. Donc, on voit à l'image, ça rejoint ce que Daniel disait, comment il instrumentalise les gens autour de lui. Il a besoin d'avoir une bonne relation avec ses voisins parce qu'il ne veut pas se faire dénoncer. Et à quelques mètres de chez elle, il commet des crimes qui sont épouvantables.
Ben oui, puis c'est souvent des grands manipulateurs. C'est des gens aussi, quand vous regardez, qu'on parle du narcissisme, qu'on parle aussi antisocial, quand on regarde aussi de la psychopathie, c'est des gens qui, sincèrement, c'est pas nécessairement écrit sur leur front, là. C'est des gens qui peuvent être très, très, très charmeurs. C'est pas pour rien, d'ailleurs, puis là, je fais un parallèle, je dis pas que c'était son cas à lui, mais quand vous regardez les gourous de secte, c'est des gens qui sont très, très, très séduisant, entre guillemets, ben là, oui. Mais pas nécessairement au niveau physique, là, on s'entend. Là. Oui, Raël, je pense à toi.
Daniel, d'ailleurs, dans ce que tu dis, quand on a arrêté Petiot, quand on l'a fait monter dans le fourgon cellulaire, des gens qui étaient autour de Petiot, donc il y avait des médecins, des policiers, des magistrats, on a demandé aux femmes, hein, ça peut paraître incroyable, on a demandé aux femmes de ne pas regarder le docteur Petiot, parce qu'on disait que le docteur Petiot avait des yeux hypnotiques et il pouvait hypnotiser les gens et leur faire croire n'importe quoi.
Mais c'est magnifique. Non, mais je vous le dis, ces gens-là, quand vous regardez, puis si jamais ça vous intéresse, il y a un paquet de documentaires là-dessus, mais regardez à quel point il y a des gens comme ça, narcissiques, même avec de la psychopathie, des gens totalement dépourvus d'empathie, puis qui, paradoxalement, sont tellement séducteurs. Vous allez voir, c'est très, très troublant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, puis j'en avais parlé dans Space Cash, je suis sûr que je vais y revenir cette saison-ci, qu'il y a des femmes ou même des hommes qui tombent amoureux de ces gens-là.
Non, ouais. C'est malheureusement une réalité. Eh bien, ça fait le tour pour l'histoire du docteur Petiot. Je pense qu'on commence la saison en force, messieurs, avec cette histoire assez explicite, je vous le mentionne.
Oui, et ça fait découvrir au public québécois un tueur qui est très connu en France, très connu de l'autre côté de l'Atlantique, mais à peu près inconnu du public québécois. Alors, j'espère que les gens auront apprécié.
On n'a pas eu d'adaptation américaine. Je vois la filmographie reliée au docteur Petiot date de 1990 et c'est un film français. Donc
avec Michel Serrault qui incarnait le docteur Petiot. C'est un film assez moyen parce que disons que le réalisateur a voulu trop couvrir l'ensemble des crimes de Petiot et à trop vouloir en mettre, il aurait peut-être eu intérêt à se concentrer davantage sur cette histoire qui l'a rendu célèbre, à savoir ce fameux circuit d'évasion de la France qui ont rendu célèbre Petiot. Mais bon, c'est un film qui mérite quand même d'être vu.
Daniel Carosella, Christian Page, je vous remercie beaucoup. On lance la saison officiellement ce soir et on souhaite aux auditeurs une bonne nuit de sommeil et une bonne semaine de retour lundi prochain, 22h.
Parfait, merci. Salut.
Bye bye.
Au revoir.
Suspect X.
Radio X.
Le Space Cast. Avec GF Rich Blay et Camille. du lundi au jeudi, 19h.
Radio X.
Salut, c'est Carbo. C'est le meilleur moment pour faire traiter la voiture à l'Antiroyal Crown. Avec la chaleur d'été, le produit pénètre mieux pour des résultats optimaux. Et pour un temps limité, tu épargnes 20$ sur le traitement numéro 1 au Canada. Visite lecrown.com pour trouver le centre le plus proche.
Le mois d'août commence et tu penses déjà aux frais occasionnés par le retour à l'école? Le plus vieux aura son appartement près du cégep et t'avais pas pensé qu'il aurait besoin d'une connexion Internet? Pas de panique. Oricom a la solution parfaite. Internet fibre 1 gigabit à seulement $59.95 par mois. C'est rapide, super fiable et vraiment pas cher. Pour un service client exceptionnel, recommandé, meilleur choix, protégez-vous, choisis les spécialistes de l'Internet. Visite oricom.ca, tu le regretteras pas. oricom.ca.
Depuis 1985, la Maison Albatros offre gratuitement des services aux gens en fin de vie tout en offrant du support aux proches éprouvés. Afin de poursuivre sa mission, la Maison compte sur le soutien de la Fondation Albatros qui doit recueillir chaque année des milliers de dollars, notamment avec son spectacle bénéfice. Contribuez à la cause en assistant au spectacle Les Voix s'élèvent le 4 septembre à l'Amphithéâtre Cogeco avec Marc Hervieux, Marie-Denise Pelletier, Christian-Marc Gendron, Manon Séguin et les 24 musiciens de l'orchestre La Symphonia de Lanaudière. Billets disponibles à partir de $28 au Amphithéâtre Cogeco.
Chez New Look, jusqu'au 15 septembre, achetez une paire de lunettes parmi toutes nos marques de designers et recevez une deuxième paire gratuitement. Détails en boutique, Jacinthe Laurendeau, opticienne. Ne manquez pas ça, ça se termine le 15 septembre. Réservez votre examen de la vue sur newlook.ca.
Vous planifiez déjà vos prochaines vacances au soleil? Hey, dès cet automne, Air Canada vous emmène dans le sud au départ de Québec sans escale. Sans escale, mais aussi sans stress, sans horaire, sans responsabilité, mais pas sans crème solaire. Oups! À vous, les vacances sans compromis au soleil. Orlando, Fort Lauderdale, Cancun, Punta Cana, sans oublier Tulum. Pour les meilleures offres sur les vols et forfaits vacances Air Canada au départ de l'aéroport de Québec, réservez sur aircanada.com ou parlez à votre agent de voyage.
La dernière mode, l'affaire en vogue, va être remplacée par une autre dans 6 mois. Laurier Mazda n'a rien à faire de la mode parce qu'on est un classique du monde automobile à Québec. Ce mois-ci, on vous offre le CX-70 hybride léger 2025 à partir de $139 par semaine en location 48 mois. Laurier Mazda vend du moderne, mais aime les vieilles valeurs, honnêteté, intégrité, respect de nos clients. On appelle ça être un classique. Laurier Mazda à Sainte-Foy, ça cartonne!
Ben j'ai décidé de te donner du temps.
Tu l'aimes ton beau Carbo? Avec ses mains pleines d'huile,
oui.
Son odeur de gaz. Yeah. Tu peux maintenant l'écouter à tous les jours.
Tous les jours.
Le Carbo Show. Carbo commente l'actualité et vous donne la parole.
Allô, Radio X.
Le Carbo Show.
Avec Carbo.
Et ce sera ainsi
lundi au jeudi, 18h.
Radio X.
Morée.
Hey, on met-tu de l'argent dans NordVote? T'as le logo Fitzy Dubé. Ça. Le non, téléphone ouais, sonne.
Les batteries.
Les autres, ils veulent du cash, NordVote.
Des deux.
Ils veulent se faire payer une usine. Là. Les autres sont autour de la table. Ah ouais, il y en a intelligent. Il y en a, ils pèsent fort 3 copies. 3 boomers, millionnaires. Hey, on est vraiment mal foutus pour vrai, là. Ça n'a pas de sens.
Morée Live. Lundi au vendredi, 6h.
Radio X.
Ça n'a aucun sens comment les Hyundai sont rendus avec des designs incroyables. Hey, on en a fait du chemin depuis la poney. Crois-moi, les têtes tournent sur un moyen temps maintenant quand tu passes avec une Hyundai. Ah, c'est sûr que tu vas avoir du monde dans ton entourage qui vont trouver que tu fais ton frais avec ta IONIQ 5 entièrement électrique, portée de 488 km, $100 par semaine, location 48 mois. Mais pourquoi c'est les jaloux qui devraient décider quelle voiture tu conduis? C'est pas ceux qui t'aiment qui t'empêchent de conduire ta IONIQ 5, c'est les autres. Nous autres, on veut. Vas-y, parce que Sainte-Foy Hyundai t'aime.
Votre propriété est en train de tomber, ça coûte cher, vous voulez vendre? C'est pas un problème. Appelez Immeuble CS dès maintenant.
Immobilier en toute simplicité.
ImmeubleCS.com.
Avis crédit auto 1, 2, 3, peu importe la situation, faillite, sans dossier de crédit, nouvel arrivant, on a une solution pour toi avec le meilleur taux du marché. Crédit auto 123.com.
Capsule.
Radio X.
Supporte ses partenaires.
Du 23 au 25 août, assistez à la plus grosse convention internationale de tatouage, le Québec Tattoo Show. Faites-vous tatouer avec plus de 400 artistes et des milliers de flashs. Concours, spectacles musicaux, arts urbains et bien plus. Billets au québectatouchow.com. Obtenez votre licence d'entrepreneur en construction avec groupe GSC.com et sa formation ultra innovatrice et hybride. Formation en ligne, en classe ou combinez les deux. Groupe GSC. RBQSC.com, la façon la plus simple d'obtenir votre licence RBQ. C'est le 20e anniversaire de Desjardins Autocollection et pour l'occasion, économisez gros avec le retour des prix employés. Offrez-vous un F-150 2024 et obtenez jusqu'à 10 964 en ajustement et épargnez à l'achat d'un Escape PHEV hybride rechargeable 2024. Rue Marais à Vanier. Méga promo à l'entrepôt de la Renault. Vinyl Click SPC à 1,79 $ le pied carré et douche complète à partir de 479 $. 9300 rue John Simons, Québec et 3790 rue Gene H. Kruger, Trois-Rivières. Entrepôt de la Renault.com.
Attention, mesdames et messieurs, et autres.
Choix.
Radio X fait un petit remaniement.
Oh my God!
Choix. Morel Live, 6 heures. Couture dans le mid.
Mais voyons donc!
À 10 heures.
Où
elle est en direct.
Dégueulasse.
Maintenant à midi, le retour de Radio X.
Ouais.
Maintenant à 15 heures.
Oh yeah!
Le Carbo Show. 18 heures, le Space Cast. 19 heures, la Sexploratrice. 22 heures.
Shit.
Attention, tout ça sera très bon choix.
En fait, on dirait pas ça, mais on s'améliore.
Radio X.
Faites-vous,
faites-vous
votre propre opinion. Choix.
Choix.
98-1.
À Québec.
C'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous,
faites-vous
votre propre opinion.
Anna, qui est prof à Trois-Rivières, qui nous a jasé la semaine passée, puis j'ai dit, il faut absolument reprendre la discussion parce qu'elle se prépare justement pour sa rentrée. Mais est-ce que... Salut Anna, comment ça va?
Allô, ça va bien, toi?
Très bien. Est-ce que c'est la rentrée aujourd'hui?
C'est la rentrée au cégep, c'est la rentrée des enseignants vendredi et c'est la rentrée des élèves primaires, secondaires, je pense que c'est jeudi prochain.
On ne donnera pas le nom de ton école, mais tu as de la jasette. On s'est parlé en dehors des ondes, c'est pour ça qu'on se tutoie. Tu écoutes l'émission depuis des années, tu commentes le contenu de l'émission, donc je suis content de te parler ce matin. D'entrée de jeu, la Une, Journal de Québec, les cellulaires. Comment ça doit être géré? J'aimerais ça t'entendre là-dessus, puis on fera le tour de... Je veux qu'on revienne sur les lunchs, parce que c'est ça qui nous a allumés lors de la discussion de la semaine passée, mais l'histoire des cellulaires. Est-ce qu'on doit bannir les cellulaires des écoles en 2024?
Écoute, c'est une bonne question qui n'a pas de réponse précise. Je pense que ça doit être beaucoup mieux encadré par la loi. Mais la loi, encore une fois, ça peut être bien large. Moi, je vais te donner mon exemple. Je permettais les téléphones cellulaires, je permettais à mes élèves d'installer un dictionnaire en ligne qui pouvait, ben, pas un dictionnaire en ligne, une application, pardon, puis les élèves pouvaient se servir du dictionnaire en classe, puis je remarquais que c'était utilisé à bon escient dans ces années-là. Là, je te parle d'il y a une dizaine d'années. Les jeunes étaient beaucoup moins esclaves de leurs machines.
Le sont-ils maintenant, selon toi?
Ah oui, oui, ils le sont totalement.
Écoute, pourquoi tu dis ça? Donne des exemples.
Ben, je vais te donner un exemple. C'est rendu maintenant que les élèves veulent aller à la salle de bain. Ils doivent laisser le téléphone en classe. Puis quand tu dis qu'ils laissent ton téléphone en classe, ben, tout à coup, ils sortent de la classe, 30 secondes après, sont revenus. Ils ne sont pas allés à la salle de bain. Ils ont demandé la permission pour sortir, pour pouvoir gérer leur message. En juin, je suis dans le corridor, je suis en train de faire une surveillance, une petite fille qui monte l'escalier, mais elle est penchée dans l'escalier, puis je la vois qui zigonne après son téléphone, elle est en train de le mettre dans ses bas. Donc, elle préfère porter un pantalon à l'école pour pouvoir avoir son cellulaire avec elle en tout temps, collé sur son mollet. Donc, elle est au courant que les notifications rentrent et sortent. Est aussi au courant qu'il est interdit en classe, qu'il doit être mis dans la pochette en avant et que si on les prend, on les confisque.
C'est ça la politique de l'école où tu travailles?
Oui, c'est la politique. On a commencé l'année dernière, je pense qu'au secondaire 5, c'était complètement interdit. Il y a 2 ans, pardon, l'année dernière, là, on a mis ça à la grandeur de l'école.
Comment c'est géré? OK, le kid, mettons, moi je suis un kid. Là. Secondaire 5, j'arrive, j'ai mon téléphone, je le mets où?
Moi, je me place dans mon entrée, puis quand les élèves rentrent dans ma classe, on a une pochette à 34 numéros en avant parce qu'on a 34 élèves. Puis tu déposes ton téléphone, tu déposes tes écouteurs, tu déposes ta montre intelligente. J'ai 34 élèves dans ma classe puis que j'ai 8 pochettes de remplies, il y a un problème. Donc, je commence pas mon cours tant que c'est pas fait.
Ah oui?
Je te dirais qu'il y a des directions d'école qui vont rentrer dans nos classes, qui vont dire « Oh mon Dieu, il y a juste 6 téléphones en avant. Qu'est-ce qui se passe, la gang? » Là, t'en as 5, 6 qui se lèvent puis vont déposer le téléphone. On connaît nos élèves qui, eux autres, qui est toujours dans la case. On le sait, ils n'ont pas intérêt à amener ça en classe. Je vais te faire une parenthèse. Je travaille avec quelqu'un qui est quand même au placé dans une usine. Et ils ont eu des formations au printemps. Puis dans les formations, on leur dit... En 2024, tu ne peux plus demander à un jeune de ne pas avoir son téléphone sur lui. Il va préférer ne pas rentrer travailler que pas avoir son téléphone. Donc, on doit gérer, on doit montrer à notre monde à avoir un téléphone avec eux, mais à l'utiliser de la bonne manière. On est dans une usine, là. On est dans une aluminerie, là. On travaille avec des matériaux, des choses qui sont chaudes. Tu sais, la CNSST est là, les accidents de travail, mais les jeunes peuvent les employés, je voudrais plutôt dire, peuvent avoir leur téléphone maintenant avec eux. On est rendu là, là. Il y a une dépendance affective profonde avec le téléphone cellulaire, les notifications, les... C'est... Puis je te dirais que j'ai... je considère que j'ai été une maman quand même assez encadrante à ce niveau-là. Puis mon garçon, cette année, en secondaire 5, tu sais, il m'écrivait durant le cours, puis je disais, qu'est-ce que tu fais à m'écrire durant tes heures de cours? « Ah ouais, mais là, il reste 10 minutes, le prof nous a dit qu'on peut prendre nos téléphones. » Tu sais, je pense qu'on est rendu que si on a un cadre, puis moi, je suis contente que le gouvernement embarque dans cette... dans, il nous aide à quelque part. Tu sais, je le sais qu'on on doit pas donner tout le pouvoir